Cocopelleo, bonjour. Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre dernière bande dessinée, La Tour de Babel, parue aux éditions d'Argo. C'est pas le tableau de Bruegel, mais c'est plutôt, comme vous dites, le grand bazar européen, et puisque vous vous attaquez à essayer de nous faire découvrir ces institutions. Je me demandais, vous êtes quand même baladé dans le sein du sein, vous avez croisé Ursula von der Leyen, Charles Michel, Emmanuel Macron, même Elon Musk en vidéoconférence avec Thierry Breton à San Francisco. Ça a l'air tellement facile, c'est normal ça, de pouvoir rentrer aussi aisément.
Je suis aussi surpris de cette facilité d'accès, je vous avoue.
Je pensais qu'il fallait des badges, des sur-badges.
Normalement, il faut des badges, mais en fait, c'est vrai qu'en tant qu'auteur de bande dessinée, moi, j'ai réussi à faire un pas de côté. Et donc, je ne fais pas partie de la presse, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de carte de presse, ni rien du tout. Et j'arrive vraiment comme un naïf, presque comme un citoyen lambda qui pourrait venir et entrer dans ces institutions-là. Mais j'ai quand même dû montrer patte blanche. Et ma grande force, ça a été que j'ai déjà fait des albums de bande dessinée embarquée. Sur la politique française. Et c'est vrai que quand j'ai commencé cet album, j'ai été voir le ministère des Affaires étrangères français, le Quai d'Orsay, en leur disant « Voilà, je vais faire un ouvrage sur l'Union européenne. Il va me falloir quelques accès. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelques lettres à l'attention de certains responsables pour que je puisse aussi les suivre ?» Voilà. Donc j'ai dû quand même montrer patte blanche avant aux différentes institutions.
Mais justement, est-ce que vous avez reçu des consignes quand vous êtes, on vous a laissé... occasion d'aller fouiner un peu partout. Est-ce que vous avez dû soumettre votre projet ? Est-ce qu'il y a eu de la censure, de l'autocensure ou au contraire carte blanche de la part des institutions ?
Non, il y a une carte blanche. C'est aussi ça qui est assez surprenant, c'est vrai, c'est que, en fait, et qui est assez fou, c'est qu'ils laissent entrer un citoyen, un auteur de bande dessinée dans des négociations de haut vol qui sont normalement fermées au public. Et c'est vrai que j'ai pu accéder au Conseil européen. J'étais dans le bureau France avec Macron, ses sherpas diplomatiques qui discutent autour d'une table. J'ai assisté à un dîner avec l'ambassadeur français en Suède. Enfin bon, j'ai eu plein de choses comme ça, assez fou. Et où je me disais, attends, là, j'étais au milieu d'une table avec d'autres hauts représentants. Comment ça se fait que tu sois là ? Et je pense que c'est dû à l'image de la bande dessinée. En tant qu'auteur de bande dessinée, les responsables politiques sont très heureux d'entrer dans la pop culture, en quelque sorte, d'être dessiné. Et il y a un peu ce côté de « Oh oui, c'est l'auteur de bande dessinée, il est un petit peu marrant, il est un peu sympa, on va lui ouvrir les portes. » Parce qu'ils pensent beaucoup au dessin, à la façon dont ils vont être caricaturés. Et en fait, à côté du dessin, il y a le texte qui peut parfois être un petit peu traître.
On va y venir, là, ouais. Notamment Garance Pinault et ses loups. Ça, c'est énorme, quand même, ça.
Oui, Garance Pinault. en fait, elle a pas eu le choix. C'est vrai que c'est elle, en fait, qui, quand j'arrive dans la salle de négociation française, qui monte ses loups-boutins et qui me dit « Ouais, tu dessines bien les loups-boutins », parce qu'elle était fière d'avoir ses loups-boutins. Et à ce moment-là, moi, je dessine Garance Pinault qui dit « Ah bah voilà, tu dessines bien les loups-boutins ». Donc, j'ai pas eu de censure ni rien du tout. Il y a une seule fois dans l'album où j'ai fait attention quand même à présenter...
Ukraine, non,
c'était même pas en Ukraine.
Parce que là, vous le dites dans votre ouvrage, quand même, ils sont très respectueux et du moins, ils surveillent leur image de marque par rapport à ce qu'on pourrait dire sur eux, là, non ?
Ouais, alors ils essayent, en fait, de contrôler leur image. Mmh. Et c'est vrai que quand ils se retrouvent face à un journaliste, bon, il y a un micro, une caméra, ils ont peur d'être enregistrés, que la séquence soit coupée sur Twitter et autres. Avec un auteur de bande dessinée, moi, j'aime bien accompagner un responsable politique sur la durée. Donc, ça va être un jour, deux jours. Et au bout d'un moment, le naturel revient au galop. Et c'est là que je suis là avec mon crayon. En fait, je me fais oublier. C'est vrai que je m'assois dans un fauteuil. Je suis très silencieux. Je pose quasiment aucune question. Je me fonds dans le décor. Et là, je dessine la scène telle qu'elle est. Et c'est un peu cet objectif de jouer la plante verte. Et au moment où ils me prennent pour une plante verte, là, ça y est, je peux noter les choses les plus savoureuses.
Vous en sortez avec les acronymes ? Vous avez reçu un petit lexique explicatif ?
Alors au début, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que c'était assez drôle de voir ça parce qu'il y a un jargon européen, il y a un jargon technique, forcément. Et donc, moi, je me retrouve face à tout ça. J'essaie de comprendre certaines discussions face à des journalistes politiques européens qui sont très chevronnés. Et au début, je me dis, mais je vais rien comprendre, c'est pas pour moi, ça va être trop compliqué et tout ça. Et j'avais, avant de commencer cette aventure, en plus, rien lu sur l'Union européenne.
Oula !
C'est-à-dire que je suis arrivé et je voulais avoir vraiment ce sentiment du citoyen naïf qui arrive sur place, qui découvre certaines choses Et je ne voulais pas perdre cette naïveté dans le récit, en fait, pour que rendre un récit qui soit accessible à tout le monde.
Parce que finalement, justement, en parlant du citoyen lambda, qu'il estime que ça coûte très cher, et surtout les gens qui y sont. Et puis vous dites quand même, bon, on n'y comprend rien, je crois que c'est un peu la vie générale. Est-ce que vous avez ce côté didactique qui est venu dès le départ pour essayer de nous expliquer ?
Dès le départ, l'idée c'était vraiment de faire un état des lieux de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, donc pas forcément faire un récit eurobéa ou eurosceptique, mais vraiment de montrer, parce que le sujet n'avait pas encore été traité en bande dessinée. Donc je voulais montrer ce qu'est vraiment l'Union européenne avec les acteurs d'aujourd'hui. Et on dit souvent que cette Union européenne, elle est désincarnée, que c'est une grande machine technocratique très froide. Et moi, je voulais montrer les visages qu'il y a derrière cette Union européenne. Donc forcément, je suis obligé de mettre un peu de didactique pour rendre accessible ça aux citoyens qui n'ont pas forcément toutes les notions. Et donc, cette bande dessinée, ouais, elle s'adresse à la fois aux citoyens lambda et à la fois aux responsables politiques qui apprennent aussi des choses. Mais c'est vrai que sur le récit qu'on fait de l'Union européenne, on dit souvent « Bruxelles, c'est loin et c'est compliqué ». Bah, c'est pas si loin que ça, parce qu'on parle quand même de grands enjeux qui nous touchent toutes et tous, que ce soit au niveau du réchauffement climatique, de la crise migratoire, aujourd'hui de la guerre en Ukraine, ou de plein de grands sujets comme ça. Et c'est pas si compliqué que ça, parce qu'au début, on se dit « mince, 24 langues différentes, 27 nationalités, qu'est-ce que c'est que ce grand bazar ?» D'où le titre, le sous-titre de l'album. Mais le fonctionnement global, je trouve, est plutôt accessible aux citoyens. Mais à chaque fois qu'on en parle dans les médias, on dit toujours « Ah, Bruxelles, c'est loin, c'est compliqué, ça va être austère. » Et on est en train, petit à petit, de tirer le citoyen en dehors de cette Europe. Et ça, c'est vrai que je trouve ça dommage.
Est-ce que vous vous rendiez compte, avant de commencer, de la recherche ou des recherches que vous alliez entreprendre et que ça allait vous prendre 2 ans?
Non, je m'attendais pas à ça. Je savais que ça allait être quand même un gros programme, un gros enjeu, parce que tout le monde dit Bruxelles, c'est compliqué, c'est réservé à une élite technocratique, etc. Et au début, je me sentais pas légitime en entrant dans le premier Conseil européen. Pourtant, je suis un chevronné de la politique française, en quelque sorte, grâce à mes deux précédents albums, qui étaient sur l'Assemblée et ensuite sur la campagne présidentielle française. Donc, normalement, j'arrivais avec une certaine assurance, mais c'est vrai qu'arrivé sur place à Bruxelles, je me suis dit, mince, là, je ne connais pas les lieux, je ne connais pas les visages. Est-ce que je vais comprendre quelque chose ? Qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer ? Et certains accès sont peut-être un peu plus difficiles à avoir. Et donc, ça a été le fruit de longues négociations. Et pour faire petit à petit ma place et me faire connaître aussi dans cette petite bulle médiatique qu'est l'Europe.
Avant de remettre votre manuscrit, vous avez dû, je suppose, à chaque fois qu'il arrivait un élément, que ce soit les élections américaines, la menace de Trump, le problème des livraisons d'armes, le Qatargate, vous avez dû remettre à chaque fois sur le travail votre manuscrit et le réadapter en fonction des différentes actualités.
Pas alors oui, il y a des actualités quand je suis
thème Gaza commissaire, aussi,
Gaza également. Tout à la fin du récit, c'est un récit au long cours qui se construit petit à petit. Et le défi pour moi, c'est pour que le récit s'installe dans la durée, c'est quand même de garder certaines histoires qui seront encore d'actualité dans un an, dans 2 ans ou autre. Donc il faut faire la distinction entre la petite actualité dont personne ne parle, mais dont tout le monde parle dans la bulle médiatique européenne, et qui dans 1 mois ou 2 sera totalement oubliée, et le grand fait qui risque de marquer et qui permette d'installer cet album dans la durée. Quoi. Voilà. Et alors, c'était vraiment un tri d'informations chaque fois qu'il se passait quelque chose. Je me disais, est-ce que ça c'est important ? Est-ce que ça me permet aussi d'expliquer un des volets de l'Union européenne ? Si ça ne me permettait pas de l'expliquer, bah, tant pis, je ne le mettais pas, et puis c'est tout.
9 juin, tsunami. Avec le RN qui prend le dessus. Finalement, quand on lit attentivement votre ouvrage, on se rend compte qu'on pressentait déjà quand même cette montée. Hein.
Ouais, on pressentait dans plusieurs pays européens et notamment en France. Hein. C'est vrai qu'une des premières cases de la bande dessinée, ça se passe durant la campagne présidentielle française en 2022 que je suivais avec d'autres auteurs de bande dessinée. Et c'est vrai que je fais le constat que les idées extrêmes, notamment à travers Marine Le Pen, dit « oui, on va restaurer la souveraineté nationale. Qu'est-ce que c'est que ce diktat de Bruxelles ?» Désolé pour les Belges, mais on a visé votre capitale. Et à chaque fois, on dit, il y a un diktat de Bruxelles, il y a un diktat de Bruxelles. Et en me rendant sur place, moi, je voulais voir, est-ce que c'était vrai qu'il y avait un diktat ou non ?
Et ?
Et en fait, non, il n'y a pas de diktat de Bruxelles, dans le sens où la Commission européenne ne peut que proposer les lois, mais c'est soumis ensuite au vote des eurodéputés. Et surtout, on s'aperçoit que les États membres ont toujours leur mot à dire, avec aussi les grands pays comme la France et l'Allemagne qui sont extrêmement favorisés.
Alors justement, 9 juin, on est passé de 705 à 720 députés au Parlement, en fonction de l'évolution démocratique. Et puis il y a tous les futurs candidats qui frappent à la porte, l'Albanie, Moldavie, Géorgie, et bien sûr l'Ukraine, avec ses 43 millions d'Ukrainiens. Ça va devenir l'enfer de Dante, non ?
En fait, il va falloir repenser cette Union européenne, et c'est toutes les questions qu'on va se poser là dans les prochains mois, dans les prochaines années. Si on accueille 10 pays supplémentaires, comment on fait ? Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de commissaires européens, où il y en a un par pays, donc de 27 à 37 ? À 27, c'est déjà assez compliqué de se mettre d'accord. Est-ce qu'à 37, ça ne va pas devenir un capharnaüm ? Comment on s'organise par rapport à tout ça ? Et surtout, est-ce qu'on réforme l'Union européenne avant de faire entrer ces pays ou non ? Voilà. Et ça, c'est une grande question qui risque d'agiter, ou j'espère en tout cas, les citoyens. Il faut vraiment qu'on pense à tout ça, à se dire quelles vont être les évolutions futures de cette Union européenne. Et en même temps, on a un devoir moral par rapport à certains pays comme l'Ukraine qui se battent aujourd'hui pour des valeurs européennes face à la Russie, et où on se dit, est-ce qu'on les laisse de côté ou non ? Il va falloir réformer notre Union européenne. La réforme, elle est quand même compliquée. Mais de l'autre, ils se battent pour nos valeurs européennes, donc il va falloir choisir entre politique et, et autre chose. Ouais.
Alors un des mots, c'est la corruption. La Grèce, la Hongrie, la Pologne, et encore plus l'Ukraine. On en arrive au Qatar Gate. Vous aimez bien les valises de billets, non ?
J'en ai pas reçu pour cet album. Après, si un émir du Qatar veut me donner une valise et je peux partir à Dubaï avec ou autre, pourquoi pas. En fait, truc assez dingue, c'est que je suis arrivé alors qu'on parlait assez peu d'Europe dans notre quotidien et dans les médias français. Et là, d'un coup, tous les médias se sont mis à parler du Qatar Gate à Bruxelles, où il y a cet eurodéputé grec qui a été retrouvé avec des valises de billets. On aurait dit une série Netflix. Et d'un coup, moi, je me suis dit, il y a un autre sujet qui est effectivement la corruption, qui est encore présente dans plusieurs pays de l'Union européenne, alors qu'ils sont membres de l'Union européenne. Et on demande à d'autres pays comme l'Albanie ou puis l'Ukraine de faire énormément de mesures anticorruption. Donc, est-ce qu'il faut d'abord balayer devant sa porte ?
L'expliquez bien. Hein, ça, voilà. C'est vrai qu'on comprend l'enjeu et en même temps l'opposition entre ce qu'on voudrait et la situation derrière.
C'est le cas, ouais, c'est ça.
Et d'un autre côté, comme vous me dites aussi, après 7 mois, le scandale des eurodéputés incriminés et réapparaissent comme si de rien n'était.
Oui, c'est que les eurodéputés qui ont été incriminés reviennent tranquillement au Parlement européen sans véritable sanction. Alors on verra, je ne sais pas si la justice ensuite poursuit son cours, mais c'est vrai qu'il y a un problème de sanction par rapport à ça. Nous, par exemple, en France, on a une haute autorité pour la transparence de la vie publique qui essaye d'assainir un petit peu les politiques.
On essaye.
Mais bon, il y a quand même énormément de contrôle par rapport aux politiques, et je m'en suis aperçu lors de l'écriture de mon album sur l'Assemblée nationale française. Ces contrôles-là, ils n'existent pas au niveau européen. Vous pouvez très bien travailler dans une société privée et en même temps être eurodéputé. Donc il y a encore des conflits d'intérêts et donc c'est encore des choses qu'il faut faire évoluer et où il faut avancer. Et je pense que ce Qatar Gate, il a permis de faire avancer certaines choses. Par exemple, les eurodéputés aujourd'hui sont obligés de déclarer leurs frais, leur patrimoine avant le mandat et après le mandat. Comme ça, on sait à peu près s'ils sont enrichis ou pas. Bon, c'est déjà un premier truc, c'est pas assez, mais c'est déjà un premier pas. Et je pense que s'il y avait un peu plus de pression médiatique et citoyenne sur ces eurodéputés, peut-être que ça changerait un petit peu plus vite. Le Qatar Gate, ça a fait un tollé. Là, le Parlement européen s'est réveillé d'un coup en disant « il va falloir légiférer parce que là, c'est pas possible, on peut pas continuer. »
Il faut pas que ce soit le soufflé non plus.
Mais il faudra que ce soit un soufflet qui retombe. Et c'est pour ça que nous, citoyens, il faut qu'on soit quand même un peu vigilants par rapport à ça.
Alors, vous parlez aussi pas mal de négociations, business as usual. Ouais, ouais. Et parfois, on a l'impression qu'on est, on a affaire à des marchands de tapis, non ?
Alors, on a un peu affaire à des marchands de tapis au niveau des États membres et puis surtout des, ouais, du Conseil européen. Du coup, on a moins ce côté marchandage de tapis côté Parlement, par exemple. Mais côté Conseil européen, c'est vrai que c'est d'abord l'intérêt national qui prime. Ouais. Et en fait, chacun essaye de mettre ses pions, etc., au détriment parfois de certaines valeurs de l'Union européenne. Quand vous avez la Hongrie qui bloque certaines décisions, on dit à Orban, bon, écoute, on te file telle ou telle aide, on réduit nos sanctions, parce qu'ils ont eu énormément de sanctions, parce qu'ils ne respectaient pas quelques petites choses un peu essentielles, comme l'état de droit, la liberté de la presse, enfin, des choses qui font le sel de cette Union européenne-là. Et parfois, on lui dit, bon, écoute, prends cet argent-là, et puis arrête de bloquer les décisions, et puis voilà. Et là, à ce moment-là, c'est vrai que moi, en tant que citoyen, ça m'a un petit peu choqué. Je me suis dit, bah non, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Et ce n'est pas l'argent au détriment de la politique au détriment de l'argent, quoi, en fait.
Finalement, vous n'êtes pas si candide que ça, puisque vous lancez quand même quelques piques style Zelensky, qui aime bien recevoir sa Légion d'honneur, Fillon et son copinage avec la Russie, Charles Michel qui aime se faire photographier avec le président de l'Ukraine... Et alors les fameux Louboutins, c'est vraiment... Vous êtes un faux candide, quoi.
Ouais, alors... Bon, après, c'est des choses, des attitudes que j'observe énormément. C'est ça aussi avec le dessin, c'est que quand vous avez les journalistes, ils essayent peut-être d'avoir la bonne image, le bon angle, etc., pour qu'on voit bien la personne face à eux, et ensuite ils posent quelques questions. Moi, c'est vrai que je suis à côté, c'est un temps un petit peu plus long, le dessin, où je vais revoir certaines images, revoir certaines attitudes... voir que Zelensky, quand il arrive, on dirait qu'il marche comme un cow-boy ou des choses comme ça. Voilà. Et ça me permet vraiment de faire un pas de côté et de prendre du recul par rapport à tout le cirque médiatique qui peut se passer devant moi et de dire, ok, en fait, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, d'accord. Okay. Voilà. Là, je vais le dessiner et on va montrer un autre regard. Quoi.
Alors, vous aimez le cinéma, notamment Quentin Dupieux, Terry Gilliam et les Monty Python.
Bien renseigné.
Vous croyez que ça pourrait les intéresser, les institutions européennes, et ça pourrait les inspirer, un peu comme la BD Quai d'Orsay avait intéressé Tavernier.
C'est vrai que moi, pour cette bande dessinée, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui avait déjà été fait au niveau de la bande dessinée, des séries et autres. Il n'y a pas grand-chose. La pop culture n'a pas vraiment traité cette Union européenne encore. Peut-être parce qu'on la connaît mal, peut-être parce qu'il y a une incompréhension qui apparaît loin des citoyens, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas eu d'autres albums de bande dessinée qui se sont vraiment emparés de ce sujet-là. Mmh. Et oui, il y a un petit côté quand même absurde. Enfin, moi, en tout cas, en tant qu'auteur de bande dessinée, je me suis dit, mais... En arrivant sur place, 27 nationalités, 27 cultures différentes, qui essaient de se mettre d'accord, mais qui parlent 24 langues différentes, et parfois avec des avis politiques totalement opposés. Mmh. Mais en fait, pour un dessinateur, c'est génial, c'est fascinant. On se dit, mais quel bazar! Et en fait, plus il y a de bazar, mieux c'est aussi pour nous. Et on essaie d'organiser tout ça. Il y a des failles, il y a des échecs, il y a des choses qui réussissent. Et c'est passionnant, en fait, à regarder et à comprendre.
Justement, cinéma, mais il y a eu l'affaire de principe avec Bouly qui interprète José Bové, qui parle du problème du lobbying du tabac. C'est quand même aussi un gros problème, les lobbying, non, finalement c'est, ça gangrène les institutions.
Alors, il y a un problème au niveau des lobbies, parce que là, ils ne sont pas assez contrôlés à Bruxelles. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Je vous en parlais, hein, le fait d'être eurodéputé, de travailler pour une entreprise privée et tout ça. Il y a un registre de transparence, mais qui ne fonctionne pas très bien, parce que les grandes entreprises, en fait, ont l'obligation d'être sur ce registre-là, mais juste pour accéder aux institutions. Donc, en fait, quand un eurodéputé se retrouve dans un cocktail, il peut très bien rencontrer des pétroliers ou autres. Donc, c'est quand même un véritable problème par rapport à ça. Donc, il faut évidemment plus de contrôle, plus de pression médiatique, plus de pression citoyenne. Après, il faut rappeler qu'avoir des lobbies dans une démocratie, c'est aussi sain, c'est aussi comme ça que la démocratie fonctionne. Moi, je pourrais être, comme je suis auteur de bande dessinée, représenter à un moment le lobby de la bande dessinée si je vais voir un commissaire européen et que je lui dis « Tiens, là, il faut peut-être mieux réguler les intelligences artificielles sur Instagram ou autre. » Voilà. Donc, on est tous un petit peu des lobbies sujet. Quelque part aussi. Il y a un sujet.
Alors, donc, vous êtes attaqué à l'Assemblée nationale, à la campagne présidentielle, à l'Union européenne. Prochaine étape, l'ONU, l'OTAN ?
L'ONU, il y a une bonne bande dessinée dessus, donc je ne sais pas si j'irai vers eux. Non, faut que je réfléchisse et que je mûrisse un petit peu la question, mais j'attends de voir aussi ce que cet album peut m'apporter. Que là, je découvre un peu la géopolitique, les affaires un peu plus mondiales et tout ça, et je trouve ça passionnant. Donc, je verrai. Peut-être la Maison Blanche, on verra.
Ouh, carrément. Alors bon, on parlait de Candide, mais enfin, vous avez une âme de ménestrel. Est-ce que vous jouez de la flûte comme Coppelli?
J'ai joué de la flûte à bec, figurez-vous. Bien vu. Quand j'étais au collège, j'ai joué de la flûte à bec, mais non. Rien à voir avec Coppelli, mais c'est vrai que ce surnom, je le prends ça vient de Coppelli, justement. Et je le prends d'une histoire que j'avais lue dans Donald quand j'étais petit. Et où Donald se fait happer par l'esprit indien Coppelli, qui est l'esprit du rire, de la bienveillance, de la fête, etc. Et dont le dicton est ne jamais prendre la vie trop au sérieux. Et j'avais trouvé ça super quand j'étais petit. Je l'avais mis en pseudo MSN Messenger, je me rappelle. Oh. Je l'avais laissé tomber, et quand j'ai repris mes activités de dessinateur politique en m'approchant de la politique française, puisque je travaillais dans une maison d'édition de films anciens en même temps, je voulais pas que ça influe sur mes activités du coup dans le cinéma et professionnel, et du coup je me suis dit je vais ressortir le pseudo que j'avais sur MSN. C'était Coccopelli, que j'avais changé en Coccopello. J'ai gardé Coccopello et aujourd'hui tout le monde m'appelle Coccopello.
Et bien justement Coccopello, on vous remercie. Donc on rappelle La Tour de Babel, paru aux éditions d'Argo, à lire absolument, surtout en ce moment.
Et oui.